Bonjour et bienvenue à l'émission Les Voix de service quotidien. C'est Hélène Denis qui vous accompagne en cette dernière journée du mois de novembre 2017. Ça va trop vite! Trouvez-vous, Mathieu, que ça va vite?
Le mois de novembre, oui, effectivement. En fait, aussi...
La vie,
non, peut-être pas aussi grave que ça. Mais le mois de novembre est passé particulièrement rapidement cette année,
oui,
je trouve.
Oui, il me semble que je reculerais. On recule l'heure, là, je reculerais le mois.
On recule le mois. On reprend le mois de novembre.
Ah oui, pour revivre un peu, je sais pas, prendre le temps de vivre. Puis on sent aussi un peu poussé avec Noël qui s'en vient.
Ah, c'est Noël, c'est ça,
oui,
je me demandais. Bien,
vous avez sorti une sorte d'arbre. Oui, il manque un petit peu de lumière et de boules colorées, mais ça s'en vient.
Oui,
c'est charmant.
Mais sûrement.
Alors, est-ce qu'il y a des éphémérides de ce matin,
oui,
journée internationale de quelque chose?
Non, il n'y a pas de journée thématique aujourd'hui, donc encore une journée de libre où on peut laisser aller notre imagination pour en créer une. Mais dans l'histoire, que s'est-il passé le 30 novembre? En 1696, Pierre Lemoine d'Iberville prend la ville de Saint-Jean à Terre-Neuve. En 1782, Américains et Anglais signent les préliminaires du traité de Paris qui mettra fin à la guerre d'indépendance des États-Unis. À Glasgow, en 1872, le premier match international de soccer ou de football se termine 0-0 ou 0-0 entre l'Angleterre et l'Écosse. 1930, première projection du film L'âge d'or de Louis Buñuel, pardon, et Salvatore Dali. 1939, avec 500 000 hommes, l'Union soviétique envahit la Finlande. C'est le début de la guerre d'hiver. 1974, dans la région de Lafar en Éthiopie, des paléontologues découvrent les restes d'un squelette qui sera surnommé Lucy. C'est tout. Il y a 3 millions d'années. Elle a vécu il y a 3 millions d'années. En 1979, l'album The Wall de Pink Floyd sort au Royaume-Uni. Il deviendra le double album le plus vendu de tous les temps. Et en 1982, la même date, toujours un 30 novembre, c'est la sortie de l'album Thriller de Michael Jackson, qui est l'album le plus vendu de tous les temps, avec des ventes estimées à 65 millions d'exemplaires dans le monde.
Mmh, c'est une date magique,
ben oui,
qui porte chance.
Je pense que si jamais vous voulez, avec
oui,
votre
sortir
carrière,
mon album.
Sortir un album, c'est la journée.
Je pense que les artistes aussi ont leur
l'analyse.
Part de responsabilité dans ce succès.
Oui, oui, non, tout à fait. En 1982 encore, par décret, le gouvernement de René Lévesque diminue de 20% les salaires des employés de l'État. En 1983, à Ottawa, fin d'une session ayant duré 3 ans et demi, la plus longue de l'histoire du Parlement. Et le CRTC, en 1987, annonce l'octroi d'un permis de 5 ans au réseau RDS, le réseau des sports, première chaîne de télé française entièrement consacrée au sport au Québec. Il m'en reste deux. 1993, une commission d'enquête sur la reproduction propose d'interdire au Canada le commerce des grossesses ainsi que le clonage des embryons et la vente de tissus fœtaux, je savais.
Ouais.
C'est comme l'injection tantôt, j'ai failli dire projection. Anyway. 2015, début de la conférence de Paris de 2015, donc sur le climat. Et pour ce qui est des naissances, nous avons Jonathan Swift, l'écrivain irlandais qui est né en 1667. C'est lui qui a écrit Le voyage de Gulliver, les Lilliputiens. Et l'écrivain Mark Twain aussi est né au Missouri en 1835. Winston Churchill est né en 1874. Et la romancière Lucy Maud Montgomery est née un 30 novembre en 1874. On rappelle que c'est entre autres l'auteur de La Maison au Pignon Vert, qui est né à l'île du Prince-Édouard. Et pour ce qui est des décès, j'en ai noté un. En 1900, un des auteurs les plus célèbres du Royaume-Uni, le poète irlandais Oscar Wilde, meurt d'une méningite à l'âge de 46 ans.
Oh, c'est très jeune, ça.
C'est très jeune.
Et paraît-il que c'est l'anniversaire aussi, Mathieu. Je veux pas faire votre travail, mais j'en ai entendu parler. Diane Lavallée,
c'est
qui
vrai?
Est née le 30 novembre 1955.
Il doit certainement qu'il y a d'autres personnes qui sont nées le 30...
Mais Diane Lavallée, quand même, Thérèse,
oui.
Dans Petite Vie,
ben oui,
faut souligner.
Oui. Ben,
ouais.
On lui
alors
souhaite bonne fête.
On lui souhaite bonne fête.
Merci.
une de la presse aujourd'hui, cauchemar sans fin pour deux ambulanciers. Deux ambulanciers ont eu la peur de leur vie en dégageant sous un wagon le corps d'un homme qui venait de se donner la mort. Voyez pourquoi la Cour vient de condamner la STM à leur verser 1,5 million. Une scène de viol qui va trop loin, repousser les limites et contrevenir aux règles du CRTC, le pour et le contre, c'est dans la section art sous la plume d'Hugo Dumas, qui revient sur l'émission d'Unité 9 de mardi dernier. La chronique de Jean-Philippe Descaries, un départ émotif pour Jean Coutu. Rima El-Khoury, sa chronique intitulée « Les larmes de Justin Trudeau ». Cauchemar sans fin pour deux ambulanciers, le cauchemar absolu. Vous êtes coincé sous un wagon de métro entre un rail et un cadavre lorsque deux coups de klaxon retentissent. Le train repart et vous êtes sur son chemin. Vous en êtes certain. Deux ambulanciers qui ont cru mourir écrasés sur les rails du métro de Montréal en tentant de dégager un homme qui venait de mettre fin à ses jours auront droit à un total de 1,5 million de dollars pour leur traumatisme, vient de décider la Cour supérieure. Moi, dans ma tête, ça décollait, ça partait, s'est souvenu Jean Langlois devant le tribunal. La Société de transport de Montréal a été condamnée à leur verser cette somme parce que ses employés ont tardé à avertir les ambulanciers qu'il s'agissait d'une fausse alerte, ce qui a amplifié le choc. C'est aussi un employé de la STM qui a accroché le klaxon du train à deux reprises. « Je suis satisfaite de la décision, je suis contente que ce soit fini », dit Yolande Poisson, ambulancière impliquée dans l'événement lors d'une courte conversation téléphonique. L'ex-ambulancière souffre d'un trouble de stress post-traumatique dont les symptômes ne s'améliorent plus et n'a jamais pu reprendre son travail, tout comme son partenaire Jean Langlois. Elle travaille maintenant comme aide cuisinière à temps partiel, alors que lui est devenu homme à tout faire. La STM considère la possibilité de faire appel du coûteux jugement. L'événement s'est déroulé le 10 mars 2012 à la station de métro Cadillac. Jean-Philippe Descaries, une chronique intitulée « Un départ émotif pour Jean Coutu ». C'est avec une émotion difficilement contenue que Jean Coutu a présidé hier la dernière assemblée des actionnaires du groupe Jean Coutu, qui se déroulait d'ailleurs pas comme d'habitude au siège social de l'entreprise, mais dans une salle de réunion neutre et anonyme du bureau d'avocats Stikeman Elliott au 41e étage d'une tour du centre-ville de Montréal. Autre signe manifeste que l'événement marquait la fin d'une époque, le fondateur de la chaîne de pharmacie ne portait pas son légendaire sarrau blanc. Il était plus sobrement vêtu de l'usuel complet veston-cravate de l'homme d'affaires venu conclure une transaction. Dans son allocution à ses actionnaires, Jean Coutu a fait le bilan de sa vie professionnelle et personnelle, et c'est la gorge nouée qu'il a rappelé combien il avait été choyé par la vie, tant sur le plan familial que sur celui de la réussite financière. « Les sous, c'est important pour vous, pourvu qu'on ne les regarde pas », a-t-il toutefois relativisé. L'Assemblée extraordinaire des actionnaires de Jean Coutu visait à faire approuver hier l'offre d'achat de 4,5 milliards faite par Metro le 2 octobre dernier en vue de la fusion des activités du groupe Jean Coutu au sein des activités de l'épicier. Et c'est sans surprise que cette offre a reçu 99 % de votes favorables de la part des actionnaires inscrits. Une vingtaine de petits actionnaires s'étaient même déplacés pour venir en personne soutenir la transaction, au terme de laquelle ils vont recevoir 24,50 $ en espèces pour chacune de leurs actions de Jean Coutu, ou 75 % de cette somme en espèces et 25 % en actions de métro. Jean Coutu a commencé sa carrière de pharmacien en 1953 et c'est en 1969 qu'il a fondé le groupe qui porte son nom et qui regroupe aujourd'hui 420 pharmacies au Québec et au Nouveau-Brunswick. En 2004, le groupe Jean Coutu réalise une percée aux États-Unis en faisant l'acquisition de 1 500 pharmacies Eckerd au coût de 3,1 milliards, mais rencontre rapidement des problèmes de rentabilité. En 2006, Jean Coutu cède pour 2,1 milliards ses pharmacies américaines au groupe Rite Aid et devient actionnaire à 30 % de la chaîne qui totalise 5 000 établissements aux États-Unis, mais qui connaît d'énormes difficultés financières. Au fil des ans, Jean Coutu va complètement liquider son placement dans Rite Aid pour redevenir un opérateur régional au Québec. Le fondateur du groupe de pharmacie ne considère pas que cet échec sur le marché américain soit la raison qui a poussé son groupe à fusionner avec Metro. Jean Coutu a plutôt convenu hier que la vente à Metro n'était pas la seule option que le groupe Jean Coutu aurait pu poursuivre seul son destin. Mais on vit un temps de consolidation. En s'associant avec Metro, on peut former une nouvelle entité canadienne avec son siège social ici au Québec. Les succès solitaires sont difficiles à réaliser aujourd'hui, a-t-il expliqué à ses actionnaires pour justifier sa décision de céder le contrôle de son entreprise. Ce n'est pas d'hier que cette transaction était dans l'air, a convenu hier Jean Coutu. Cela faisait 7 ou 8 ans que des discussions informelles avaient été engagées entre les deux groupes avant d'aboutir cette année à la transaction que l'on sait. Il n'en reste pas moins que Jean Coutu était visiblement ému de présider la dernière assemblée d'actionnaires du groupe. Il a comparé cette émotion à celle d'un parent qui voit son enfant quitter le giron familial pour entreprendre sa vie d'adulte. La famille Coutu va devenir l'un des plus importants actionnaires de Metro et va occuper 2 sièges au conseil d'administration de l'entreprise. François-Jean Coutu a indiqué hier qu'il entendait rester en poste comme président de la division pharmaceutique, où il va orchestrer la fusion de Jean Coutu avec les 258 pharmacies Brunet et étudier une potentielle expansion en Ontario, où Metro exploite 70 supermarchés auxquels on pourrait adjoindre des activités de pharmacie. François-Jean Coutu ne s'est pas fixé d'échéancier pour la durée de son mandat avec Metro, mais il a précisé qu'il allait notamment voir à la préparation de la relève au sein de l'équipe de direction. À 90 ans, toujours en santé, Jean Coutu veut maintenant consacrer davantage de temps à la fondation familiale Marcel et Jean Coutu, dont la dotation dépasse les 500 millions et qui est active dans de multiples projets pour venir en aide aux démunis tant au Québec qu'en Afrique et en Amérique du Sud. La ministre du Patrimoine canadien, Mélanie Joly, n'a pas rencontré les représentants de la Fédération nationale des communications qui sont à Ottawa cette semaine pour sensibiliser les élus fédéraux à l'urgence de venir en aide à la presse écrite au pays. La visite des représentants syndicaux coïncide avec l'annonce lundi de la fermeture de 35 journaux et du licenciement de quelques 300 personnes par les grands groupes de presse que sont Torstar et Post Media. Jusqu'à présent, il n'y a pas de signal à l'effet qu'ils sont sympathiques à la cause, a soupiré la présidente de la Fédération, Pascale Saint-Onge, jointe par la presse canadienne. Un porte-parole de la ministre a précisé hier soir que l'horaire chargé de Mme Joly l'avait empêchée de rencontrer les représentants de la FNC. Il a indiqué que la demande de rencontre avait été faite à peine 5 jours plus tôt. Le ton est monté d'un cran à Québec entre libéraux et péquistes sur l'utilisation du « bonjour aïe » que l'on entend parfois dans certains commerces de Montréal lorsque des employés accueillent les clients. Pour le chef du Parti québécois, Jean-François Lisée, ce symbole de la généralisation du bilinguisme qui se serait amplifié depuis 4 ans est une source d'irritation que Philippe Couillard devrait dénoncer, a-t-il dit hier. « Moi, j'aimerais mieux qu'on dise « bonjour », même si on est québécois de langue anglaise. » Beaucoup aiment mieux dire « bonjour », d'ailleurs parce que ça donne le visage de ce qu'est le Québec d'aujourd'hui. Le Québec aujourd'hui, a répondu le premier ministre au cours de leur long échange. Ce débat autour du Bonjour Aïe suivait la publication en matinée des dernières données du recensement 2016 par Statistique Canada, qui révèle que l'utilisation prédominante du français dans les milieux de travail a légèrement reculé, même si l'usage du français de façon régulière est stable.
Malajub et leur chanson Montréal, moins 40 degrés Celsius.
À la une du Devoir d'aujourd'hui, on voit une photo avec une marquise barbershop sous laquelle est écrit « Si la vaste majorité des Québécois continuent à travailler en français, on note une tendance au bilinguisme. Travail, le bilinguisme poursuit sa croissance. La proportion des personnes qui travaillent surtout en français a diminué en 10 ans. » Violence sexuelle, en finir avec la tolérance. Pardon, quelques 80 personnes du milieu culturel signent le refus de la banalisation et la promotion de l'équité. Six mois dans l'espace pour mieux vivre sur Terre. L'astronaute canadien David Saint-Jacques multipliera les expériences scientifiques, on le voit. En photo, il a rencontré la presse mercredi à Saint-Hubert pour expliquer les expériences qu'il mènera dans la Station spatiale internationale. femmes autochtones, le prêtre nous a fait des choses. Citation. Tir de missile, Washington menace Pyongyang de destruction. Culture, question d'accent. Convenons-en en tant qu'experts douteux et parfois pires, le joual de Côtillard, la chronique de Dil Tremblay. C'est une tendance connue qui s'impose encore plus nettement. Au Québec, le recours au bilinguisme en milieu du travail poursuit sa croissance alors que la proportion de travailleurs qui travaillent surtout en français diminue. Est-ce à dire que le français recule? Les avis divergent. Dans le dernier grand bloc de données tiré du recensement 2016, Statistique Canada révélait mercredi que 79,7% des travailleurs québécois utilisent le français de façon prédominante au boulot. Or, il y a 10 ans, c'était 82%. L'anglais comme langue prédominante de travail est également en baisse de 12,4% à 12%. Le corollaire, c'est qu'au lieu de parler surtout français ou anglais au travail, de plus en plus de Québécois parlent les deux langues à égalité. Ils sont donc maintenant 7,2% à travailler à la fois en anglais et en français, une hausse de 2,6 points de pourcentage depuis le recensement de 2006. Dans la région de Montréal, épicentre de la question linguistique au Québec, la proportion de ceux qui parlent uniquement ou surtout français, ce qui revient à le parler de façon prédominante, est passée de 72,2% à 69,6% en une décennie. Quatre-vingts artistes et artisans de la culture et des médias s'engagent dans une lettre ouverte au Devoir à ne plus banaliser dans leur travail les violences sexuelles. Et pour certains des signataires, apposer là leur nom équivaut à signer un contrat moral et à s'engager à faire des œuvres plus équitables. Si l'art est représentation, alors ces artisans ont certainement un leadership à exercer pour contrer la problématique des violences à caractère sexuel, indique la missive griffée par l'animatrice Penelope McQuaid, l'auteur dramatique Catherine Chabot, les humoristes Fred Dubé, Guillaume Wagner, Léa Strelitzky et des musiciens dont les Sœurs Boulay, entre autres. Comment leurs créations peuvent-elles aussi faire partie de la solution, se demandent-ils ensemble? Comment créer, produire et diffuser du contenu n'encourageant pas les mythes, les croyances et les stéréotypes qui entretiennent la culture du viol? Il y a des comportements de toute évidence inacceptables dans la bouche de mes invités ou dans leurs actions, indique Penelope McQuaid en entrevue téléphonique. Des comportements qu'elle s'engage aujourd'hui plus que jamais à ne plus tolérer, mais il y a une zone grise élastique qui est une espèce de work in progress qui bouge avec l'évolution de la société. Et là, ce n'est pas si simple, réfléchit l'animatrice à Radio-Canada et chroniqueuse. C'est sur cette zone, croit-elle, qu'il est le plus important de réfléchir et d'agir. Il faut savoir quels sont les messages qu'on véhicule, même derrière les blagues, dit Lily Boisvert. Québec a décidé de mandater le BAP afin qu'il mène des audiences publiques sur le projet d'expansion du parc de résidus de la mine de fer de Mont-Wright, a appris Le Devoir. ArcelorMittal, qui exploite cette mine, souhaite y stocker plus de 825 millions de tonnes de résidus d'ici 2045. Le nouveau président du Bureau d'audience publique sur l'environnement, BAP, Philippe Bourque, a désigné deux de ses membres pour mener une enquête ainsi que des audiences sur ce projet tout près de Fermont. L'entreprise minière doit agrandir les sites où sont entreposés les résidus d'exploitation pour poursuivre son expansion, selon l'étude d'impact déposée. Après des semaines de revendications des ambulanciers de la région de la capitale qui déploraient même la mort de certains patients, Le gouvernement Couillard a annoncé mercredi 28,2 millions de plus pour améliorer la couverture à la grandeur du Québec. Cela se traduira par 22 véhicules de plus sur les routes et 133 000 heures de services supplémentaires. Près de la moitié de ces ambulances, 10, seront ajoutées dans la région métropolitaine, soit Montréal et Laval, mais 4 seront déployées à Québec et 7 en Montérégie. Finalement, une ambulance sera ajoutée à Gatineau. Le député péquiste et vice-président de l'Assemblée nationale, François Gendron, s'est excusé mercredi d'avoir utilisé le mot « nègre » devant des élèves d'une école secondaire de Québec. En 2017, par rapport à la présence légitime de la diversité, c'est une expression qu'on n'a pas d'affaire à utiliser, a-t-il convenu. Le réseau CTV a révélé mardi que l'élu a utilisé l'expression « travailler comme un nègre » devant une classe d'élèves de l'école La Camaradière. La direction de l'école secondaire a porté plainte parce que certains élèves haïtiens et africains ont été choqués par l'emploi de cette expression. Et l'entrepreneur Tony Accurso devra bel et bien subir un procès pour fraude, corruption, complot et abus de confiance relativement à un système de fraude à la ville de Mascouche, en banlieue nord de Montréal. M. Accurso tentait d'obtenir un arrêt des procédures en vertu de l'arrêt Jordan de la Cour suprême qui impose un délai maximal de 30 mois entre le dépôt d'accusation et la conclusion d'un procès. Le juge Daniel Payette de la Cour supérieure a rejeté cette requête, estimant que 22 des 70 mois de délai sont imputables à la défense et ne peuvent donc être comptabilisés dans le calcul.
Tu pleures, faut croire que l'hiver est pris ailleurs. La neige nous prive de sa lumière. Les heures qui coulent dans la gouttière te comptent des peurs. Laisse-les pas faire. Laisse-les pas te prendre, non, laisse-les pas étendre. Tu cries dans ta chambre pour traverser novembre. Viens faire un tour dans nos mémoires, là où le soleil brille encore, où il fait jour, peu importe l'heure du soir. Quelque part en deux refrains, mais va donc pas penser que je suis blasé pour autant. Je perds mes repères face à ton corps désert, malgré les méandres, le vent qui veut nous prendre à l'abri dans ta chambre. Viens faire un tour
bien, comme on l'a tous fait, nous avons traversé novembre. C'était la chanson de Raton Lover.
Eh oui, dernière journée de novembre, à la une du journal de Montréal, révélation de 5 policiers sur d'anciennes activités de Marcel Forget, de vieux chèques rattrape le numéro 2 de l'UPAC. Chanteur de Vilain Pingouin, la vilaine santé de Rudy Kaya. Le choc des idées, les larmes sélectives de Justin, c'est la chronique de Joseph Facal, et des excuses et des chèques, c'est la chronique de Lise Ravary. Le numéro 2 de l'UPAC a reçu des chèques à son bureau. C'est un texte d'Alexandre Robillard du bureau d'enquête. Ce sont maintenant 5 policiers ou ex-policiers qui disent avoir acheté des actions d'une entreprise controversée par l'intermédiaire ou à la recommandation du numéro 2 de l'unité permanente anticorruption UPAC, Marcel Forget, qui n'avait pas de permis de courtier. Une série d'entrevues menées par notre bureau d'enquête a permis de recueillir les témoignages suivants à propos de faits qui se seraient déroulés dans les années 1990 et 2000. Marcel Forget était alors officier à la Sûreté du Québec. Le maire de Chambly et ex-dirigeant de l'escouade Carcajou, Denis Lavoie, dit avoir donné un chèque dans une résidence de Belœil en présence de M. Forget. Ce chèque servait à acheter des actions de Newtek. L'ex-policier de la SQ, Richard Despaty, affirme avoir donné un chèque à M. Forget pour l'achat d'actions au siège social de la SQ rue Parthenay à Montréal. L'ex-PDG de la SQ, Mario Laprise, dit avoir acheté des actions de Newtek à la suggestion de Forget. Un ex-policier qui a requis l'anonymat affirme aussi avoir donné un chèque à M. Forget au siège social de la SQ. Et un autre ex-policier, dont nous protégeons l'identité, soutient que M. Forget l'a convaincu d'acheter. Il dit avoir donné son chèque à Pierre Lebeau, un ex-lieutenant de la SQ qui a éventuellement été copropriétaire d'un chalet avec M. Forget. Les 5 qui ont décidé d'acheter des actions ont affirmé que M. Forget avait joué un rôle important dans leur décision. La valeur de chacune de leurs transactions est variée, mais toujours de moins de 20 000 $. Rappelons que de nombreux petits investisseurs ont perdu toute leur mise dans l'aventure qui s'est soldée par des condamnations après poursuite de l'AMF. Marcel Forget n'a fait l'objet d'aucune accusation. Il nie avoir effectué du courtage de valeurs mobilières sans permis. Le géant automobile japonais Toyota a dévoilé hier à Tokyo son troisième prototype humanoïde THR3, capable de répliquer en temps réel et avec souplesse les mouvements d'un opérateur humain, le contrôlant à distance. Humanoïde noir et blanc, mesurant 1,54 m pour 75 kg, THR3 dispose de capteurs dans chacune de ses nombreuses articulations, avec un soin tout particulier accordé à ses mains afin de lui permettre de sentir ce qu'il manipule. THR3 a été présenté lors d'un salon international de la robotique. Le groupe n'a pas prévu de le commercialiser dans l'immédiat, mais envisage à terme d'utiliser cette technologie pour les soins à domicile des personnes âgées notamment. Un prof n'en peut plus des SAVA, S-A, espace V-A au cégep. Benoît Dumais, enseignant au département de français, langue et littérature au cégep de Rivière-du-Loup, affirme en voir de toutes les couleurs sur les réseaux sociaux. « Je n'étais plus capable, je devais faire quelque chose, je saignais des yeux. Toutes les fois que je voyais SAVA, écrit avec donc le SA au lieu d'être le C, c'est dit A, c'était écrit avec le S. » raconte l'enseignant en riant. Il a ciblé 13 erreurs d'orthographe communes pour en faire autant d'affiches utilisant un ton humoristique. Il a demandé à un ancien étudiant en graphisme, Guy Brémond, de les illustrer et le montage graphique a été réalisé par le service des communications du cégep. En général, l'enseignant constate que les étudiants d'aujourd'hui écrivent aussi bien qu'il y a 15 ans dans un cadre scolaire. C'est plutôt sur les réseaux sociaux que ça se gâche. Un héros sans S, c'est comme un chevalier sans cheval ni épée, peut-on lire. Il n'y a que le chat qui peut mourir 9 fois. Le mot « mourir » ne prend qu'un seul R. Certains mythes ont la vie dure. Des chevals, ça n'existe pas. C'est une légende, font entre autres partie des messages écrits sur les affiches que l'on retrouve partout dans le cégep, même aux toilettes. Une fois installées, les illustrations ont été bien accueillies par les élèves. Le cégep offre aux organismes et entreprises d'utiliser ces affiches pour faire la promotion du français dans leurs établissements. D'autres cégeps de la province et des compagnies de la région ont décidé de les apposer sur leurs murs. Le New York Times aura son correspondant à Montréal. Le Québécois Dan Bilewski rentre au bercail après près de 30 ans à l'étranger. J'étais un grand nerd au secondaire, toujours en train d'étudier, donc je reviens à Montréal avec un sens de l'aventure. C'est l'opportunité de découvrir mon pays et ma province, se réjouit Dan Bilewski au téléphone, rejoint à Londres à sa dernière journée de travail à l'étranger dans un français à peine cassé. Après avoir travaillé à Paris, Bruxelles et Prague, entre autres, il sera dès lundi correspondant à Montréal pour le plus grand quotidien des États-Unis, le New York Times, le premier dans la belle province depuis 1940. L'annonce a d'ailleurs été faite en français quelques jours seulement après l'affaire Adidas, quand le gérant montréalais d'une nouvelle boutique n'a prononcé que quelques mots en français. Parti depuis 1989, M. Bilewski n'est revenu que quelques fois à Montréal, mais il trépigne d'impatience à l'idée de retrouver la métropole qui a beaucoup changé selon lui. Ce foodie compte également faire rayonner la gastronomie montréalaise. Au-delà des bagels et du smoked meat qui font sa renommée, Montréal est une véritable capitale de la nourriture, dit-il. Mordu de culture, il veut aussi faire découvrir le végétariat québécois aux lecteurs du New York Times. Tout le monde connaît Céline Dion, mais il y a d'autres artistes super intéressants et inconnus dès qu'on se rend en Ontario, souligne M. Bilewski. Il aime notamment les films de Xavier Dolan et écoute les rappeurs québécois. Vague de soutien pour Léonie. La famille a reçu une 50aine d'appels de politiciens et de médias. Des politiciens provinciaux, fédéraux et des citoyens se sont mobilisés pour annuler l'expulsion du pays de l'étudiante modèle Léonie Pavitra Laurence et sa famille, tandis que le gouvernement Trudeau est resté silencieux hier. J'espère que les libéraux vont se réveiller pour éviter cette déportation ridicule, s'exclame Alexandre Boulris du Nouveau Parti démocratique. Le journal publiait hier l'histoire de Léonie Pavitra Laurence, 21 ans, qui risque d'être envoyée au Sri Lanka avec sa famille dimanche, même si plusieurs les considèrent comme des immigrants modèles. Parlant français couramment, elle s'était démarquée cet été pour avoir reçu un prix de la Commission scolaire de Montréal. La présidente de la CSDM, Catherine Harel-Bourdon, a diffusé une lettre d'appui à l'étudiante hier, croyant que notre société gagnerait énormément si on lui permettait d'accéder au statut de citoyenne. La société québécoise Gaz Métro change son nom pour Énergir, pour montrer qu'une bonne partie de ses actifs se retrouve désormais dans les énergies nouvelles et renouvelables, a fait savoir la société hier. Et Hydro-Québec a été blâmé pour la chute de 4300 tonnes de roc sur l'appel hydraulique d'un travailleur sur le chantier de la Romaine il y a près d'un an. Après le drame du 9 décembre 2016, cela avait pris 2 semaines à la Société d'État avant de réussir à extirper le corps de Luc Harpin, 51 ans, de la carcasse de sa pelle en raison des dangers d'effondrement. La Commission des normes de l'équité de la santé et de la sécurité au travail a blâmé hier Hydro-Québec pour le décès du travailleur. D'ailleurs, le frère de Luc Harpin, Daniel Harpin, n'exclut pas que la famille dépose une poursuite contre Hydro-Québec. La CNESST, donc la Commission des normes de l'équité de la santé et de la sécurité au travail, a conclu que Hydro-Québec n'avait pas fait assez d'études géotechniques et qu'il n'y avait pas suffisamment de moyens en place pour éviter que les 4300 tonnes de roc ne s'effondrent sur le travailleur.
Le quotidien, trop peu pour moi. Je veux tout casser, le papier peint, les chaises, les murs. Je veux déranger, je désordonne l'ordre des choses, je mets à l'envers tous les endroits.
De son disque « Manquait plus que ça », c'était Sandrine Kiberlin qui nous chantait « Le quotidien ».
L'Assemblée nationale a rendu hommage hier à l'infirmière et syndicaliste Régine Laurent qui prend sa retraite de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec en décembre. Madame Laurent, originaire de Port-au-Prince, Haïti, est arrivée au Québec à l'âge de 11 ans. Elle a eu une carrière de 35 ans comme infirmière. Le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, qui a eu maille à partir avec elle lors des dernières négociations du secteur public, a reconnu qu'elle défendait autant l'intérêt syndical que les intérêts de la société québécoise. « Un Québécois pave la route vers Mars. Il fera des expériences en orbite pour faire avancer la conquête spatiale et la médecine terrestre. Il en est question dans le Devoir d'aujourd'hui et je vous lis la chronique, plutôt l'article d'Anne-Caroline Desplanques dans le Journal de Montréal d'aujourd'hui. Mars, c'est un peu le rêve, c'est la destination, c'est ce qui nous guide, souffle David Saint-Jacques, qui passera 6 mois en orbite à bord de la Station spatiale internationale à partir de novembre 2018. Mais on est encore loin du premier pas sur Mars, prévient le médecin et astrophysicien. On pourrait s'essayer de même, mais ce serait comme essayer de traverser l'Atlantique sur un radeau de sauvetage. Les chances de survie ne sont pas fortes. En plus des défis technologiques, la route vers Mars implique un long séjour en apesanteur, une situation qui engendre notamment un vieillissement accéléré du corps humain. Les os deviennent moins forts, les muscles s'atrophient et les artères perdent leur élasticité. Pour étudier ces phénomènes et tenter d'y trouver des solutions, le Dr Saint-Jacques utilisera une nouvelle technologie d'imagerie en 3D pour mesurer la densité, la structure et la solidité des os. Il testera également une nouvelle invention capable d'effectuer des analyses sanguines en quelques minutes et un vêtement biotechnologique qui surveille et enregistre les signes vitaux en temps réel. Loin d'être réservé aux astronautes, ces nouveaux outils sont l'avenir de la médecine terrestre, estime l'astronaute. Tout ce qu'on arrive à développer dans l'espace a un impact direct sur les gens sur Terre, dit-il. Il souligne que les technologies de médecine à distance qu'il testera lui auraient été fort utiles lorsqu'il était médecin de famille au Nunavik. Il rappelle que l'usage de l'échographie pour étudier les poumons a été développé dans l'espace parce que les astronautes n'avaient pas de rayon X. Dans l'espace, on est obligé de se creuser la tête. Et ça mène à plein de découvertes, sourit M. Saint-Jacques. L'astronaute partagera ses découvertes avec le public tout au long de son séjour en orbite, en particulier avec les enfants, la génération qui fera selon lui le premier pas sur Mars. Les gens qui vont aller sur Mars, les scientifiques qui vont faire les fusées, qui vont y mener, ce sont des enfants maintenant. C'est un rêve qui leur appartient, dit-il. Né le 6 janvier 1970 à Québec, David Saint-Jacques a grandi à Saint-Lambert, près de Montréal. Marié et père de 3 enfants, il est ingénieur, astrophysicien et médecin de famille. L'Agence spatiale canadienne l'a recruté en mai 2009. Ou l'envie de vous lancer dans la confection de pâte à tarte maison? Parmi ce qui est vendu dans les supermarchés et enseignes populaires, quels sont les meilleurs et les pires choix? Le verdict de nos experts, c'est dans la presse, section pause alimentation. Donc, le test du goût. Et les meilleurs et les passables. Meilleurs. Première moisson, coup de cœur des juges, semi-abaissé, $5.75 pour 450 grammes, note 7,5 sur 10. Elle est celle qui se rapproche le plus de la pâte brisée maison. Elle est la plus chère avec celle du pain doré, $1.27 pour 100 grammes dans les deux cas, mais elle est également la seule à contenir du beurre dans sa liste d'ingrédients qui est par ailleurs succincte. Farine de blé, beurre, sucre de canne, sel de mer. Elle est déjà pré-abaissée, mais trop épaisse pour être utilisée telle quelle, ce qui la rend toutefois polyvalente. Elle a une croûte solide, un bon goût et une texture qui reflète ce que j'entends par pâte brisée. Ma préférée, sans hésitation, dit Marco Jimenez. Ensuite, pain doré à abaisser, $4.50 pour 350 grammes, note 6,75 sur 10. une pâte qui a semblé plus haut de gamme et artisanale que la majorité des autres produits. Côté texture, on a aimé son feuilleté. Elle est légèrement sucrée au goût, certains lui reprochent de manquer de fondant. Une texture dense et croustillante, mais un peu dure. Elle est pâle, bien qu'elle semble bien cuite, un goût neutre à tendance sucrée, dit Sacha Misanto. Misando. Les pas sables maintenant. PAG PAG a abaissé 3,99 $ le kilo, note 6,25 jeudi, sur 10. Elle a une belle texture feuilletée. Certains lui ont trouvé une parenté avec la pâte à croissant, d'autres avec la pâte à pain ou le gâteau. Entrée en bouche, un peu pâteuse, mais elle fond ensuite. Petite dominante sucrée, mais sans exagération. Elle manque de caractère, mais elle est globalement satisfaisante, dit Laurent Penn. Tender Flake, pré-abaissé, contient deux croûtes profondes de 23 cm, 2,99 $ pour 350 g, note 6,25 sur 10. Une texture sablonneuse et fondante, quasi sablée. Un goût neutre qui en fait une pâte polyvalente. Deux croûtes sont fournies, ce qui rend le produit moins pratique pour les tartes couvertes. Rôti au nez et un peu acide au goût. Sa texture est plutôt sèche et elle s'effrite facilement, dit François Martel. La Royale a abaissé 4,99 $ le kilo, note 6 sur 10. Texture lisse mais pas craquante, ordinaire au goût et à l'apparence, dit Marco Jimenez. Ensuite, les pâtes de l'île François Hubert. Aspect feuilleté mais plutôt pâteuse. Son goût est sans particularité avec une pointe d'acidité et de sucré. Elle reste toutefois neutre dans son ensemble, dit Laurent Penn. Et finalement, la Wooly Gluten Free, mention spéciale. Un peu grisâtre en apparence, mais feuilletée. Une texture intéressante, croquante, dure, mais fondante malgré tout. Le goût n'est pas très bon par contre. Je n'arrive pas à la définir, Laurent Penn, ou à le définir, il parle ici du goût. Les pires, Novali, pâte 2000 pré-ABC, pâte 2000 AABC, sans nom pré-ABC, les pâtes de l'île François Hubert, 25% moins sel à ABC. Et nos conclusions? Notre méthode, les pâtes sélectionnées sont celles qui étaient offertes à la fin du mois de novembre dans les supermarchés IGA, Provigo, Métro et Maxi, ainsi que dans les enseignes Première Moisson et Pain Doré. Nous les avons cuites sans garniture afin de pouvoir bien évaluer leur couleur, leur texture et leur goût. Le test a été fait à l'aveugle sans que les juges soient préalablement informés des marques et sans consultation possible. Les critères d'évaluation? La couleur. Une fois cuites, les pâtes devraient être légèrement dorées et marbrées de façon régulière. Certains produits demeuraient sans couleur une fois cuits ou cuisaient de manière inégale. Les pâtes de l'île François Hubert ordinaire et réduite en sel, PAG, sans nom. La Wooly Gluten Free, avait une teinte grisâtre qui peut s'expliquer par la présence de farine de riz brun en remplacement de la farine de blé. La texture, une pâte brisée, devrait être cassante et légèrement feuilletée. Certaines pâtes s'effritaient et ressemblaient à des pâtes sablées, comme la Tender Flake, pâte 2000, sans nom et Novali. D'autres étaient pâteuses ou farineuses, les pâtes de l'île François Hubert et Royal. Plusieurs semblaient avoir été trop manipulées, selon nos spécialistes. Le goût, quelques pâtes étaient légèrement sucrées, Novali, Pain Doré, Wooly, et d'autres plutôt salées, parfois trop, pâte 2000. Plusieurs ont laissé un film gras en bouche, dis-je bien, les pâtes de l'île François Hubert, sans nom et Royal. Les ingrédients. Une pâte à tarte est composée essentiellement de farine de blé, d'un gras, de sel, parfois de sucre et d'eau. La plupart des produits testés contenaient des huiles végétales hydrogénées. Nos observations, les pâtes pré-ABC sont l'option la plus évidente pour économiser du temps. Ce qu'on conclut notre jury, les pâtes pré-ABC sont un choix évident si on manque de temps. Quant aux pâtes à ABC, elles ne nous évitent ni le rouleau ni l'utilisation de farine. Elles ne rivalisent pas non plus, hormis les meilleures, avec la pâte à tarte maison qui est facile à cuisiner, en plus d'être économique. Pour éviter de mauvais choix en épicerie, on peut la confectionner et la congeler, comme c'est le cas pour plusieurs des produits présentés. À lire la semaine prochaine, notre dossier sur les secrets de la pâte à tarte maison. Restez avec nous pour la suite de l'émission avec les actualités internationales, culturelles et les journaux régionaux.
je suis fatigué. Fatigué de toujours courir sans jamais franchir l'arrivée de l'autre, mon amour. Les jours passés se ressemblent et se confondent les uns aux autres. Perdu en forêt, ma vie est course folle et aveugle, sans plus l'écho du bout de départ. Parle-moi et rassure-moi.
De son disque Rêver mieux, c'était Daniel Bélanger qui nous chantait Chante encore.
« 96 ans, âge d'Oscar Gröning, un ancien comptable du camp d'extermination d'Auschwitz qui devra, malgré son âge, purger sa condamnation de 4 ans de prison, selon une décision rendue hier par un tribunal allemand. Il fait partie des tout derniers anciens nazis à avoir répondu de leurs actes devant les tribunaux plus de 70 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale. » Le pape en visite en Birmanie. Le pape François salue les fidèles catholiques alors qu'il arrive pour célébrer une messe au stade de Kyit Ka San à Rangoon en Birmanie. Ce sont des photos dans la presse d'aujourd'hui. Le pape serre la main de Badanta Kumarabhivasma, président du comité Sangha Maha Sayaka lors d'une réunion avec le comité bouddhiste de Rangoon. Des religieuses assistent à la messe célébrée par le pape François au stade Kyit de Ka San à Rangoon. Une fidèle catholique reçoit la communion. Aussi, on voit une rencontre entre le pape et le comité Sangha Maha Nayaka à Rangoon. Et finalement, le pape François marche vers une statue de Bouddha lors de sa rencontre avec le comité. L'aéroport international de l'île indonésienne de Bali a rouvert après avoir été fermé pendant 2 jours en raison de l'éruption du volcan Agung. Il est toutefois loin de fonctionner au maximum de sa capacité. Des données de l'aéroport montrent que 23 vols, la plupart pour des trajets intérieurs, ont transporté environ 1 600 passagers après la réouverture mercredi en Indonésie. Généralement, plus de 400 vols par jour sont enregistrés à l'aéroport. Plusieurs vols intérieurs sont prévus, mais seulement 4 vols internationaux sont annoncés pour des départs ce matin. Des dizaines de milliers de voyageurs, dont plusieurs Canadiens, sont retenus depuis la fermeture de l'aéroport lundi en raison des cendres volcaniques. Le président indonésien a prévenu que le danger n'était pas encore écarté et il a demandé aux évacués de ne pas rentrer chez eux pour le moment. Même si l'aéroport a maintenant repris ses activités, aucun retour à la normale n'est attendu de sitôt. Une nouvelle éruption ou des vents qui pousseraient les cendres vers l'aéroport pourraient de nouveau entraîner sa fermeture. Un accusé croate de Bosnie, Slobodan Praljak, s'est donné la mort hier au moment de l'énoncé de son verdict devant le tribunal pénal international à La Haye, traumatisant ses juges et plongeant la Croatie qui l'a soutenu jusqu'au bout dans un état de choc. Hier devait se clore le dernier procès devant le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, TPIY, qui ferme ses portes en décembre. Il a pris une toute autre tournure dramatique lorsque Slobodan Praljak a sorti une fiole de sa poche et avalé son contenu de couleur marron. Son avocat a immédiatement prononcé le mot « poison », une situation inédite dans la salle feutrée du tribunal. Un des 6 accusés dans le procès est mort aujourd'hui à l'hôpital HMC de La Haye, où il a été transporté après avoir bu un liquide dans la salle d'audience. Il s'est rapidement trouvé mal, a déclaré le porte-parole du tribunal, visage fermé et sueur sur le front devant des journalistes. Personne ne sait encore comment l'accusé a pu entrer dans l'enceinte du tribunal avec une fiole contenant du liquide. Praljak n'est pas un criminel. Je rejette votre verdict, avait déclaré l'accusé juste après la confirmation par le tribunal de sa condamnation à 20 ans de prison, debout devant les juges, le regard dur et déterminé. Manifestation quasi faillite, impopularité, le président du Venezuela, Nicolas Maduro, va se représenter en 2018 alors que le pays traverse une des pires crises de son histoire. Cette annonce a été faite hier par le vice-président lors d'un rassemblement du Parti socialiste uni du Venezuela au pouvoir. C'était soir de première pour Louis-José Houde hier et toutes les critiques sont vraiment dithyrambiques, très, très enthousiastes. Dans le Journal de Montréal, on titre « Du grand art ». Nos attentes étaient très élevées pour ce quatrième spectacle solo de Louis-José Houde et il les a pleinement comblées. Avec « Préfère novembre », l'humoriste apparaît au sommet de son art en livrant un spectacle hyper comique et sans temps mort. Une prouesse de haute voltige qui démontre à quel point il vole au-dessus de la mêlée. Le verdict, ce n'est pas pour rien que Louis-José Houde cumule les tournées à succès. Lui qui a dépassé le million de billets vendus en carrière avec ses trois premiers spectacles. L'humoriste est en pleine possession de ses moyens. Et aujourd'hui, à 40 ans, sa maîtrise de la technique humoristique est pour le moins impressionnante. Une véritable leçon donnée par un maître de l'humour. Danielle Trottier persiste et signe. Elle explique la finale automnale d'Unité 9 qui a choqué une partie du public. Malgré la colère de nombreux téléspectateurs, Danielle Trottier ne regrette pas d'avoir montré une scène de viol collectif mardi dans Unité 9. C'est une réalité qu'on ne peut plus fuir, déclare l'auteur. La télé, c'est un médium d'image pour montrer à quel point les victimes d'abus sont fortes et résilientes. On devait montrer les choses, c'est une réalité qui existe, on ne peut pas y échapper. Hier, les relations avec l'auditoire de Radio-Canada avaient reçu 33 messages de téléspectateurs, dont 4 plaintes auxquelles elle comptait répondre. Danielle Trottier explorera les conséquences d'une telle horreur quand Unité 9 reviendra en janvier. « Ce n'est pas la fin, c'est le début », dit l'auteur. « Pour Jeanne, c'est un point tournant. Elle ne sera plus jamais la même. Jeanne, c'est le personnage incarné par Ève Landry. » Quant aux nouveaux personnages, Danielle Trottier mentionne ceux de Manon Granger, alias Boule de quille, interprétée par Kathleen Fortin, et Manon Vallière, jouée par Hélène Florent. Selon toute vraisemblance, cette suite continuera de tester la sensibilité du public. Au début d'Unité 9, des gens qui connaissaient bien le milieu carcéral me disaient que c'était très doux. Mais comme j'ai beaucoup de respect pour les téléspectateurs, je voulais qu'ils s'habituent avant d'arriver avec des images plus dures. Aujourd'hui, je n'ai plus le choix. Mon histoire, c'est la prison des femmes. Ce n'est pas la vie dans une chocolaterie. Rock Voisine a présenté hier à la salle André-Mathieu de Laval la première médiatique de sa tournée « Devant nous » qu'il va promener à travers le Québec, le Canada et de l'autre côté de l'Atlantique jusqu'à la fin de 2018. Dès le début du spectacle, il a invité les gens à aller voter sur sa page Facebook durant l'entracte afin de choisir la chanson qu'ils aimeraient entendre après l'intermission. Rock Voisine est plus spontané dans ses interactions avec le public. C'est ce que raconte Samuel Pradier dans le Journal de Montréal d'aujourd'hui. Avec cette nouvelle tournée, Rock Voisine prouve qu'après 30 ans de carrière, il est toujours possible de se renouveler et de retrouver la flamme de la jeunesse. L'Orchestre symphonique de Montréal propose ce jeudi 30 novembre un concert à la Maison symphonique de Montréal pour célébrer les 50 ans du réseau des cégeps. Le concert dirigé par Adam Johnson et mis en scène par Monique Giroux proposera des prestations de Catherine Major, Vincent Vallière, Yann Perrault, Philippe Braque, Charles-Richard Hamelin, Claudine Mercier et Jessica Vigneault. L'événement sera retransmis en direct dans tous les cégeps grâce aux étudiants du programme Arts et technologies des médias du cégep de Jonquière. Et il veut rappeler l'importance du concours Cégep en spectacle, dont Corias est le porte-parole pour l'édition 2017. Des honneurs pour la pièce J'aime Hydro. J'aime Hydro, la pièce de Christine Beaulieu, a reçu cette semaine le prestigieux prix Michel Tremblay de la Fondation du Centre d'essai des auteurs dramatiques. Ce prix veut récompenser le meilleur texte dramatique créé à la scène la saison précédente et il est accompagné d'une bourse de 20 000 $, la moitié versée par le Centre d'essai, l'autre moitié par la Fondation du Centre d'essai. La pièce remporte un fort succès auprès de la critique et du public et le texte vient d'ailleurs d'être publié chez l'éditeur Atelier 10. Deux autres prix importants ont été remis par la Fondation du Centre d'essai des auteurs dramatiques lors d'une soirée le 27 novembre. Le prix Louise Lahaye, qui récompense l'écriture dramatique jeune public, a été remis à Sébastien David pour Les Hauts-parleurs. Ce prix est accompagné d'une bourse de 10 000 $. Enfin, le prix Gratien Gélinas, qui récompense la relève en écriture dramatique, a été remis à Rachel Graton pour La nuit du 4 au 5. Il est constitué d'une bourse de 10 000 $ ainsi que d'un montant de 15 000 $ remis à la compagnie théâtrale qui porte le texte sur scène. La nuit du 4 au 5 a été présentée cet automne au Centre du théâtre d'aujourd'hui. Je vais toujours faire des spectacles et des disques, j'en ferai même en chaise roulante, dit Rudy Kaya. Après avoir été victime de deux accidents vasculaires cérébraux début novembre, Rudy Kaya est particulièrement paralysé du côté droit. Malgré tout, c'est avec la détermination d'un guerrier que le chanteur de Vilain Pingouin mène son combat pour remonter sur scène, c'est Vanessa Guimond qui en parle dans le Journal de Montréal d'aujourd'hui. Concrètement, je dois réapprendre à parler, réapprendre à marcher et réapprendre à utiliser mon bras et ma main droite. Ça se fait à pas de tortue, a expliqué l'artiste de 56 ans qui a subi un total de 4 AVC au cours des 7 dernières années. Grâce à des séances quotidiennes d'ergothérapie, de physiothérapie et d'orthophonie, le chanteur s'exprime aujourd'hui avec plus d'aisance et se déplace avec une marchette lorsqu'il est supervisé. S'il arrive quelque chose, je ne peux pas me retenir avec mon bras droit, a-t-il souligné. Je me déplace donc en chaise roulante, mais je peux me servir seulement de ma main gauche pour avancer. Honnêtement, je pense pouvoir remiser la chaise bientôt. Je commence à être pas pire avec la marchette. Alors, on lui souhaite un bon, surtout rétablissement. Rudy Kaya, qui espère, en tout cas, il a l'air vraiment volontaire. Il veut toujours faire des spectacles et des disques.
J'écris juste des chansons tristes. Ben vous saurez que le bonheur, j'ai que ça existe. Mais peut-être que d'en parler, j'ai peur de l'effrayer. Ou c'est rien que mes mots qui savent plus lire dans mes pensées. J'ai jamais dit que j'avais de quoi je parlais. Ça aurait insinué que la vie je la comprenais. Moi, je suis juste un simple ouvrier qui travaille dans les mines de plomb. Je passe mes journées, mes nuits à creuser mes pensées pour en trouver le fond. Le bleu du papier blanc. Le bleu du papier blanc. Combien qu'il me reste de temps. Le bleu du papier blanc. Ça ressemble à de la poésie. C'est seulement un jeu pour habiller un peu mes idées. Puis du monde m'écoute, ça prouve que la chance me sourit. Même si mes cordes vocales sont un peu désaccordées. Mon crayon y est tanné de se faire pousser. De jeter l'encre sur un petit bout de papier. J'ai
sais qu'aimerais ça, mais j'ai pas le talent pour dessiner. Alors j'ai peur qu'un jour il décide de s'effacer, le bleu du papier blanc, le bleu du papier blanc. Combien qu'il me reste de temps, le bleu du papier blanc.
Vous avez peut-être reconnu la voix de Rudy Kaya, « Le bleu du papier blanc », une chanson que Mathieu, celui qui est à la régie aujourd'hui, aime beaucoup. Alors, on poursuit avec la tournée des journaux régionaux « Dans le soleil » sous la plume de Yann Bussière, LGBTQ2, l'acronyme qui grandit. On parlait naguère de la communauté gay, de la communauté gay et lesbienne, puis de la communauté LGBT. Plusieurs ont découvert cette semaine que le gouvernement canadien privilégiait maintenant l'acronyme LGBTQ2. Par souci d'inclusion, d'autres organismes étirent même l'acronyme jusqu'à 11 caractères avec l'extra long LGBTQQIP2SAA. Même dans la communauté, les avis divergent sur la formule à utiliser. Quelque part au milieu des années 80 aux États-Unis, le B de bisexuel a été ajouté au nom de la communauté gay et lesbienne pour former l'acronyme LGB. Quelques années plus tard, des groupes d'activistes ont décidé d'y ajouter le T pour inclure les communautés transgenres et transsexuelles. C'est en 1996 et surtout chez les anglophones que la lettre Q a commencé à être ajoutée à l'acronyme dans certains cercles. Elle représente « queer », un terme privilégié surtout chez les jeunes pour caractériser toute minorité sexuelle ou de genre. En 2016, la Gay and Lesbian Alliance Against Defamation, GLAAD, un organisme américain de veille médiatique, a d'ailleurs déterminé que LGBTQ était la formule à privilégier. Malgré tout, l'acronyme a carrément explosé ces dernières années, parfois par l'ajout d'un second Q, signifiant « questioning » pour les personnes s'interrogeant sur leur identité sexuelle ou de genre, d'un L pour « intersexe », les personnes ayant à la fois des caractéristiques masculines et féminines, et d'un P pour « pansexuel », une personne attirée par toutes les identités sexuelles ou de genre. Le 2S, ou seulement le chiffre 2, représente le terme « spirited », alors S-P-I-R-I-T-E-D, utilisé chez les Autochtones pour décrire les personnes partageant deux genres ou deux identités sexuelles, alors que les 2A identifient les asexuels qui n'ont d'attirance sexuelle envers personne, et les alliés qui ne font pas partie de la communauté mais appuient tout de même leurs revendications. Centre de pédiatrie sociale, l'enfant au cœur de la mission. La parole des enfants, elle est sacrée, elle est pure. Il n'y a rien de plus beau que d'être leur ami. C'est un article dans Le Droit sous la plume de Daniel Leblanc. C'est entre autres avec ces mots que Dr Julien, dont le modèle novateur de pédiatrie sociale est un succès partout au Québec, dont à Gatineau, a salué l'ouverture d'un tout premier centre de pédiatrie sociale en sol ontarien. Après plusieurs mois de travail en coulisses, le carrefour de pédiatrie sociale du Centre de services communautaires, CSC, Vanier, est né mercredi, ce qui permettra de venir en aide à plusieurs dizaines d'enfants de 17 ans et moins qui sont dans une situation de vulnérabilité et qui habitent ce quartier ou encore fréquentent l'une de ces écoles. Le projet est devenu réalité grâce à une subvention de 680 000 $ sur 3 ans, offerte par la Fondation Trillium de l'Ontario, vise au bout du compte à ce que chaque enfant puisse développer son plein potentiel, rappelle l'instigateur de cette institution. Alors, le long article est accompagné d'une photo. L'ouverture du carrefour de pédiatrie sociale a eu lieu en présence de plus d'une centaine de personnes, dont l'instigateur de l'approche, Dr Gilles Julien, l'épouse du premier ministre Sophie Grégoire Trudeau, ainsi que le petit Xavier. Dans le Nouvelliste, Nancy Massicotte signe un article « Une femme de Kevin Parent devant la justice ». La trifluvienne Renée Toupin fait de nouveau face à la justice pour avoir harcelé son idole, le chanteur Kevin Parent. La femme de 53 ans, qui n'en est pas à ses premiers démêlés judiciaires pour des gestes semblables, vient tout juste d'être accusée de 4 nouveaux chefs de harcèlement criminel. Les événements qui lui sont reprochés seraient survenus le 24 juin 2015 à Bel Air, le 31 juillet 2016 à Carleton, le 10 février 2017 à Shawinigan et le 14 juillet 2017 à Joliette. En fait, dans la majorité des cas, elle aurait profité de la tenue des spectacles de Kevin Parent dans ces villes pour s'en approcher d'un peu trop près et le harceler. C'est du moins ce que révèle la dénonciation autorisée par la procureure de la Couronne, Maître Catherine Lacourcière. Et toujours dans le Nouvelliste, Paul Vermeau-Desroches, la 50e édition du Festival Western de Saint-Tite se solde par une année record à tous les niveaux, tant pour l'achalandage que pour le taux d'occupation ou encore les ventes. C'est ce qu'a dévoilé l'organisation du festival mercredi matin en faisant le bilan de cette édition historique. Au total, ce sont tout près de 700 000 visiteurs qui se sont rendus à Saint-Tite pour l'édition anniversaire, un chiffre compilé par la firme Crop. Dans l'histoire du festival, la 40e édition avait attiré tout près de 725 000 personnes. Toutefois, fait remarquer l'organisation, les marges d'erreur assumées par ces firmes de sondage permettent de croire qu'on aura à tout le moins égalé le record de la 40e édition. Ici Hélène Denis, merci d'avoir été à l'écoute de l'émission Les Voix de service quotidien. Merci Mathieu Tessier à la mise en onde et au choix musical. Je vous retrouve au Par Actualité.